Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. C'est une situation que vous avez sûrement vécue. Un ami, une amie éplorée et les mots qu'on a du mal à trouver pour le ou la consoler. Ces mots qui seront de toute façon insuffisants pour contenir la peine. Consoler, c'est trouver le bon rythme, accepter le silence, savoir accueillir les larmes, ne pas se précipiter, peut-être parfois mentir un peu, être là, tout simplement là. C'est difficile de consoler quelqu'un. Mais ça peut s'apprendre. Il y a des clés, des portes d'entrée, des écueils à éviter aussi. Comment consoler des grands comme des petits mots qu'il ne faut pas prendre à la légère? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse. La consolation n'est pas une réparation magique, mais c'est ce moment, parfois très lent, qui permet de traverser le rideau de la tristesse pour aller vers des jours plus heureux. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, c'est à portée de tout le monde. Et vous, avez-vous déjà consolé? Avez-vous déjà été consolé? Quels sont les mots qui ont fait tilt? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On attend vos témoignages, vos questions aussi, 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter où vous pouvez laisser des notes vocales. Et dans Grand Bien vous fasse, le mardi, nous sommes en partenariat avec le magazine Femme Actuelle et Marie-Laure Sunshine du journal est là avec nous. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Thomas.
Tout comme Éric Libio. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas.
Quel sera le thème de votre chronique, chose presque vue, Éric,
eh bien,
aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous parlerons plume d'oie et recette de pâtes, si ça vous dérange pas.
Eh bien, ça me dérange pas du tout, ce sera d'ici une grosse demi-heure. Merci d'être avec nous ce matin. Grand Bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, Grand Bien vous fasse.
Deux invités pour évoquer la consolation, les consolations, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, on le verra. Christophe André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, psychiatre, psychothérapeute et vous venez de sortir ce livre Consolation au pluriel, donc c'est aux éditions Iconoclaste. Héloïse Lhérété, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du magazine Science Humaine et vous avez publié un livre, du moins un livre a été publié sous votre direction, qui s'appelle Revivre après une épreuve, c'est aux éditions Science Humaine. D'ailleurs, dans ce livre, il y a un chapitre donc qui s'appelle « L'art de la consolation ». Et vous écrivez dans ce chapitre que c'est un art qui a disparu, dites-vous, notamment à cause du rationalisme.
C'est un art qui était très présent dans l'Antiquité, de Platon jusqu'à Sénèque, Boèce, donc 6e siècle de notre ère. Il y a eu énormément de traités de consolation qui étaient portés notamment par des philosophes, parce qu'il y avait cette conviction aussi que la philosophie était consolatrice et avait des vertus affectives. À partir du moment où le christianisme s'est déployé au Moyen-Âge, il y a eu une sorte de scission entre la philosophie, qui s'est occupée de vérité, ni rire, ni pleurer, comprendre et dire la vérité, au fond, et puis,
donc,
et puis
les, religions, ses émotions.
Les religions du salut qui étaient chargées de nous consoler.
Christophe André, le livre, je le disais, c'est au pluriel, consolation au pluriel. Ça veut dire donc qu'elles sont nombreuses.
Oui, oui, ben heureusement, puisque nos sources de désolation sont nombreuses aussi, sont variées. C'est vrai que quand on parle de consolation, on pense tout de suite à ces deux extrêmes, que sont les consolations qu'on propose à un petit enfant qui s'est fait mal, qui pleure, qui a perdu ou cassé son jouet, donc des choses assez bénignes, jusqu'aux consolations qu'on va proposer aux endeuillés. On essaie de consoler les endeuillés. Les consolations de l'Antiquité dont vient de parler Héloïse Lhérété, c'était effectivement des tentatives de réconfort qu'on adressait aux personnes qui traversaient des grandes épreuves, des deuils la plupart du temps, ou des énormes revers de fortune. Mais entre les deux, entre l'enfance et la mort, entre le bénin et le dramatique, il y a aussi toutes les consolations dont nous avons besoin au quotidien, toutes les blessures du quotidien. Et celles-là, on les oublie bien souvent.
Qu'on peut citer, c'est par exemple l'étudiant qui rate un concours, c'est la première déception amoureuse quand on est adolescent, ce sont les petites humiliations qu'on peut subir sur le monde du travail par exemple, c'est l'incendie de sa maison qui est aussi redoutable. C'est vrai que tous ces mots, on en parle assez peu quand on parle de consolation, Héloïse Lhérété.
Il me semble qu'il y a tout de même un point commun entre toutes ces consolations, c'est qu'à chaque fois, elles font surgir la figure de la perte. L'enfant a perdu son doudou, l'amoureux.
Ce qui est dramatique.
Mais ce qui est dramatique, bien sûr.
C'est vrai, pour un enfant, c'est absolument dramatique.
on perd un amour, on perd la santé, on perd un être cher. À chaque fois, le consolateur survient quand il y a un sentiment de perte et donc de désolation.
Ce que vous racontez dans votre livre, Christophe André, c'est notamment l'histoire d'une, enfin, que j'ai trouvée très belle, hein, d'une femme qui fait sa lessive. C'est une mère de famille qui lave ses pulls, ses propres pulls. Ce sont ses pulls préférés. Et elle se trompe de programme. Et les pulls ressortent, mais deux fois trop petits pour elle. Et elle, elle est malheureuse. Mais personne ne s'en rend compte. À table, tout le monde rit de la mésaventure. Ah, les pulls, tu t'es trompé de programme, etc. Sauf l'un de ses enfants qui voit la détresse dans le regard de sa mère, qui voit aussi finalement les larmes couler dans le regard de sa mère et qui se lève et qui va embrasser sa mère.
Oui, oui, c'est une histoire qui paraît toute banale, toute simple, mais j'y ai assisté et ça m'a beaucoup touché moi aussi parce que elle dit bien sûr cette perte que représentent les désolations en général qu'on vient d'évoquer, mais aussi le sentiment de solitude lorsqu'on est confronté à l'adversité, à l'épreuve. Alors même parfois, voilà, il faut jamais juger de l'extérieur. Est-ce que ça vaut la peine ou non de s'attrister pour des pulls rétrécis? Mais si ce sont des vêtements qu'on aime, qui ont une histoire, et à cet instant en tout cas, sans en faire un drame, la personne a de la peine et elle se sent seule parce que les autres rient. Et la consolation, c'est s'approcher de quelqu'un qui est seul dans l'adversité, c'est désirer ne pas laisser les gens seuls face à la peine et à l'adversité. Vous savez, il y a une autre scène à laquelle j'ai assisté récemment, c'est une dame qui se fait agresser dans le métro, enfin même pas agresser, mais quelqu'un lui arrache son sac et part en courant.
C'est donc une agression.
C'était une dame sans coups, sans violence, mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose de violent symboliquement. C'est une dame âgée, elle peut pas courir après la personne, et elle fond en larmes. Elle est toute seule sur le quai du métro, elle pleure, et donc je suis dans le métro, je vois la scène et bon, je m'apprête à m'approcher. Et puis deux personnes s'approchent d'elle et vont la consoler. Et il me semble que ça, on est dans l'essence effectivement de ce qu'est la consolation. On n'abandonne pas quelqu'un face à sa peine, à son adversité, on ne la laisse pas dans la solitude. Et je crois qu'il y a deux choses importantes que montre cette petite scène. D'abord le réconfort immédiat. Ça, c'est voilà, le réconfort, c'est une sorte de petite consolation de l'instant. Et puis aussi, ce qui, à mon avis, est peut-être le plus important dans la consolation, c'est que on peut supposer que si cette dame avait été laissée toute seule sur le métro, à pleurer, abandonnée, après s'être fait voler son sac, elle aurait une vision du monde, de la vie, de la société très sombre. Et là, le fait d'être réconfortée par deux autres personnes va peut-être lui faire qu'elle va garder sur notre société un regard qui comporte à la fois des gens qui volent les sacs, mais aussi des gens qui viennent nous soutenir et nous consoler. Et je crois que la consolation, c'est ça, c'est une réconciliation avec la vie, quelque chose qui nous permet de ne pas sombrer dans la solitude et dans l'amertume.
Ce que ça raconte aussi, c'est qu'il faut oser aller consoler, parce que j'imagine que ces deux personnes dont vous parlez ne connaissaient pas cette dame et qui sont spontanément allées vers elle pour, en effet, la réconforter, peut-être la prendre dans les bras. J'imagine que des échanges,
ça,
des gestes.
Mais
il faut oser, on a tous été sûrement confrontés à cette situation où on voit quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît absolument pas, qui est en larmes. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas?
C'est à la fois un petit effort qu'il faut faire plutôt que passer, la laisser pleurer, se dire, bon, après tout, on ne lui a pas fait mal, il n'y a pas eu de violence, voilà, elle va s'en sortir, elle va porter plainte, l'assurance remboursera. Mais voilà, on fait l'effort d'aller vers elle et on prend le risque parce que parfois on veut consoler et ce n'est pas le bon moment, on n'a pas utilisé les bons mots, la personne est en colère et on se fait repousser, rejeter, ça nous est arrivé à tous. Et donc, la consolation, c'est une petite intrusion qu'on se permet dans l'univers de quelqu'un qui le plus souvent va lui faire du bien et qui parfois va nous valoir un petit refroidissement dans notre élan. Ouais.
Ce que vous dites dans votre livre, Héloïse Lhérété, c'est qu'il ne faut absolument pas minimiser la perte dont vous parlez, quelle qu'elle soit, la perte d'un être cher ou la perte d'un doudou, qui est aussi un être cher d'ailleurs. Dire des phrases comme « Oh mais un de perdu, 10 de retrouvé, tu verras », tout ça c'est franchement inutile.
Oui, le premier acte de la consolation, c'est de reconnaître à l'autre un droit aux larmes. On ne va pas dire arrête de pleurer, ça suffit, c'est pas si grave, ou c'est dans la logique des choses. Non.
Il n'y a pas mort d'homme.
Y a pas mort d'homme.
C'est une phrase qui reviendrait souvent.
Et quelquefois, si, en plus, il y a mort d'homme. Donc, effectivement, le consolateur, il agit dans cette brèche. C'est toujours difficile. Il faut du tact, il faut de l'humilité. Reconnaître à l'autre son malheur et en même temps, parvenir à le remettre dans l'élan de la vie. C'est-à-dire, lui dire, reconnaître que son malheur est grand, qu'il est singulier, mais qu'en même temps, le monde est encore plus grand, la vie est encore plus grande et il y a des possibilités de vivre au-delà du malheur. C'est ce chemin-là qu'il faut essayer de frayer quand on est dans la posture du consolateur.
Ah, c'est parce que le psychanalyste qui est avec nous dira de ce lapsus.
Mais je crois vraiment que comme on peut apprendre des gestes de premier secours, on peut apprendre des gestes de consolation. Moi, il se trouve que j'avais lu il y a quelques années un très beau livre de Michael Fessel qui s'appelait Le temps de la consolation, qui est un livre assez théorique justement sur les savoirs antiques de consolation. Et je me suis retrouvée un peu comme Christophe André, soudain, face à quelqu'un qui avait un grand malheur. En l'occurrence, c'était un enfant que je connaissais à peine, qui m'a été jeté dans les bras et qui venait de perdre son papa dans un accident de voiture. Donc une situation très brutale, avec une maman éplorée qui me disait « je sais plus quoi faire, consolez-la ». J'ai eu un moment un peu de panique. Et puis je me suis raccrochée à ce que je venais de lire, en fait, de manière très théorique, parce qu'il y avait des choses toutes simples dans le fait d'essuyer les larmes, de s'agenouiller pour se mettre à la hauteur de la personne, d'écouter, d'être présent, de proposer une promenade, d'aller dire bah, « tiens, t'as vu, là, il y a des canards, on peut aller les regarder et, ». Et se remettre petit à petit dans la vie, dans la marche, dans l'élan. Finalement, c'est une petite fille que j'ai vue régulièrement pendant cette année-là. Tous les samedis matin, on avait notre petit rituel où on parlait pas du drame, mais on se remettait petit à petit dans la vie.
Nous sommes au téléphone avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous vouliez témoigner?
Alors, je voulais témoigner, c'était surtout... J'aurais voulu faire passer un message à tous ceux qui ne savent pas quoi dire devant les drames. J'ai vécu ça et je le vis en ce moment deux fois de suite sur trois de mes fils. L'aîné a mis fin à ses jours il y a 10 ans et le dernier a mis fin à ses jours il y a 2 mois. D'accord ? Il y a 10 ans déjà, je me suis retrouvée dans une solitude, dans un silence assourdissant. C'est une banalité de dire ça, mais c'est comme ça. Et cette fois-ci encore, des amis que je croyais très chers, que je vais encore croire très chers, ne disent rien. Ils n'envoient pas un texto, pas un message, pas un machin. Voilà, comme si la souffrance était contagieuse, comme si, je sais pas, le suicide était contagieux aussi, je n'en sais rien. Il est peut-être génétique, ça c'est mon problème. Mais bon, je veux dire aux gens qui sont confrontés comme ça à la douleur de quelqu'un, dites quelque chose, dites je ne sais pas quoi dire, dites je ne sais pas imaginer, dites je ne peux pas comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre, et fort heureusement, je ne demande à personne de comprendre ma situation, d'accord? Mais dites un mot, un mot, si vous n'êtes pas là, envoyez un message, un cœur, n'importe quoi, il y a 1000 façons à l'heure actuelle. Je veux dire, parce que le silence, en plus du silence qui nous est imposé, qui m'est imposé par mes fils, eh ben, ce silence-là, c'est un silence de trop, rien. Et donc, j'ai une chance énorme d'avoir eu 3 fils extraordinaires. J'ai la chance d'avoir encore un fils extraordinaire et des petits-enfants, d'accord? Donc, je mesure ma chance. Mais dans ma douleur... Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en dehors du silence qu'on impose parce qu'on ne sait pas quoi dire, sachez, en tous les cas, moi, je ressens que ça, et je pense que je ne dois pas être la seule, le plaisir, la douceur, la plénitude que c'est de pouvoir parler de notre disparu. D'accord? Que ce soit un enfant, un père, un mari, enfin, je ne sais pas quoi. le plaisir de prononcer encore leur nom. Ils s'appelaient Jean-Christophe et Thibault, d'accord ? Le simple fait de prononcer leur prénom, de parler d'eux, je parlerai de Thibault et de Jean-Christophe à longueur de vie. Je parlerai d'Aurélien aussi, mais je veux dire, voyez.
Et le souvenir aussi des moments passés. Merci beaucoup Nathalie pour votre précieux témoignage et très touchant témoignage. Et nous vous envoyons plein de cœur d'ailleurs, puisque vous parliez du silence. Merci beaucoup Nathalie, bonne journée à vous. Christophe André, ce que dit Nathalie aussi, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est que il vaut mieux dire plutôt que de ne rien dire.
Oui, là c'est merci vraiment à Nathalie, parce qu'on sent que sa peine est encore très grande, et de nous avoir parlé de Jean-Christophe et Thibault, donc ses fils disparus, avec tellement de justesse. Je crois qu'elle a vraiment dit l'essentiel de ce que peut être la perte d'un enfant. C'est-à-dire, comme chacun considère qu'il n'y a pas pire souffrance que perdre un enfant, c'est vrai que c'est le pire des deuils possibles, effectivement, souvent les parents endeuillés décrivent ce que vient de dire Nathalie, c'est-à-dire ils ont l'impression d'être devenus radioactifs. Les gens les voient comme porteurs d'une telle charge de souffrance qu'ils n'osent même pas, c'est pas seulement s'approcher, c'est même pas dire quoi que ce soit, parce qu'ils se disent, quoi que je dise, ça sera insuffisant, ça risque de raviver la peine, et dans ces cas, on se tait. Et on oublie qu'effectivement, il suffit, comme le dit Nathalie, d'envoyer un petit message, un SMS, je pense à toi, je t'embrasse, et ça suffit. Ça suffit pour que la personne ne soit pas dans cette solitude de l'adversité. Et c'est vrai que dans le livre, alors bon, c'est là qu'on peut apprendre la consolation. Il faut voilà, on peut pas non plus prétendre qu'il y a
déjà oser dire. Mais qu'il arrive, j'envoie un message, même si je sais que ce message n'aura pas d'importance. On ne sait pas comment il va être reçu, donc c'est essentiel. C'est important de le dire.
Voilà, c'est important.
Tout le monde n'ose pas forcément.
Non, mais j'ai essayé de dire. Voilà, souvenez-vous, il y a la lettre A, trois fois la lettre A. Donner de l'attention, montrer que vous êtes attentif à ce qui se passe. Donner de l'affection, rappeler à l'autre que vous l'aimez, vous l'appréciez, vous êtes quelqu'un, c'est quelqu'un qui compte pour vous, et proposer de partager des actions simples. C'est ce que disait tout à l'heure donc Héloïse Lérété, elle consolait cette petite fille en
allant voir les canards,
allant se balader. Et parfois, souvent les gens ont l'impression que pour bien consoler, il faut faire des grands discours, il faut trouver des belles phrases, etc. En réalité, ce qui console le mieux, c'est d'amener la personne endeuillée ou blessée, marcher, se promener, faire des trucs très très simples qui vont suspendre au moins un instant la douleur et son sentiment de solitude.
Héloïse Lérété.
Georges Simmel, qui est un sociologue, dit que la consolation, c'est ce vécu très particulier qui ne supprime pas la souffrance, mais qui supprime la souffrance de la souffrance. Et la souffrance de la souffrance, c'est précisément ce sentiment d'isolement radical que peut créer le malheur. Le malheur, il emmure. Et la consolation, elle peut pas supprimer la perte. Elle peut pas supprimer la souffrance qui naît de la perte. Mais elle peut fissurer ce mur. Et elle peut permettre de restaurer le chemin vers les autres, montrer que la vie continue et que d'autres rencontres sont possibles.
Alors dans les recommandations que vous proposez, si on peut appeler ça recommandation, je ne sais pas, Christophe André, il y a notamment la musique. Et la chanson qui vient sur France Inter est du genre de celle qui redonne le sourire.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand.
Sony et toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de France Inter.
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Bobby Ebb qui a écrit cette chanson pour se remettre de deux drames qui l'ont touché en même temps. Alors, il y a la mort de Kennedy, hein, et celle de son frère qui, le lendemain de la mort de Kennedy, a été assassiné à la sortie d'un bar. Écrire, composer, jouer de la musique, chanter, comme Bobby Ebb l'a fait, ça fait partie de ces gestes qui consolent, Christophe André.
Oui, ce sont des gestes de réconciliation avec la vie, de remise en lien avec le monde, puisque toute consolation, effectivement, c'est une remise en lien. On essaie de faire que la personne qui est dans la peine, dans le chagrin, dans l'adversité, se dégage de cette adversité, ne soit pas exclusivement polarisée, parce que vous savez, la souffrance, c'est un aimant pour notre attention. Nous avons tendance à focaliser toute notre attention sur ce que nous avons perdu, sur ce qui nous fait de la peine, sur ce qui nous blesse. Et donc la consolation, c'est une tentative douce, hein, pas violente, pas intrusive, pas autoritaire, de nous remettre en lien avec la vie, nous faire de nouveau regarder les belles choses qui restent dans notre vie, nous remettre en lien avec les autres humains, nous remettre en lien avec nous-mêmes parfois, parce que le paradoxe, c'est que parfois on s'en veut, on peut être en colère contre soi, on peut se dire j'aurais pu peut-être éviter ce qui s'est passé. Et donc la consolation, c'est la remise en lien avec tout cela que l'on essaie de proposer doucement à quelqu'un. Et effectivement, ben voilà, la musique, la marche, le partage, parfois des discussions qui peuvent avoir quelque chose à voir avec l'épreuve, mais parfois être tout autre chose, parler d'autre chose peut être aussi quelque chose de consolateur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut consoler, on y va tout doucement et on se met à l'écoute, au tempo de la personne qui est dans la peine.
La consolation, menu de grand bien vous fasse aujourd'hui avec deux invités, donc Christophe André que vous venez d'entendre, psychiatre, et puis également est avec nous Héloïse Lhérété qui est rédactrice en chef du magazine Science Humaine. Éric Libiot et Marie-Laure Sunshine sont là également avec nous. Et Marie-Laure, vous aviez une question à poser.
Oui, Christophe André, je rebondis sur ce que vous venez de dire, le tempo, le bon moment, lorsque l'on souhaite consoler quelqu'un par des actes, par des mots, vous l'avez dit, par une présence, on peut parfois soi-même être bloqué, se dire « je n'ai pas été là tout de suite, il s'est déjà passé quelques jours, voire quelques semaines, je n'ai pas réagi, c'est trop tard ». En fait, non. Et comment se dire, se mettre au diapason finalement de la souffrance de la personne à consoler pour, quoi qu'il arrive, intervenir au bon moment?
Oui. Alors, ben déjà, peut-être renoncer à vouloir intervenir au bon moment et se dire que c'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Ce qui est important dans la consolation, c'est que tout commence par un acte de présence. On montre à l'autre qu'on est là. On essaie de se mettre au diapason de sa peine, voir si ce dont l'autre a besoin, c'est plutôt de pleurer avec nous, lui permettre de pleurer en notre compagnie, s'il a besoin qu'on lui change les idées, s'il a besoin qu'on lui remonte le moral, qu'on lui propose des actions. Et effectivement, L'erreur de tempo, l'erreur de timing qu'on peut commettre dans la consolation, c'est trop se précipiter sur les bons conseils. Ça va passer, tu vas t'en sortir. C'est là où parfois il faut réprimer son besoin de consoler avec des mots, mais se dire d'abord la présence, d'abord vraiment être à l'écoute, donner de l'affection, de l'attention. Et puis après, voilà, voir si, comme le disait Nathalie tout à l'heure, la personne a envie de parler des personnes disparues, si c'est un deuil, si elle a envie de parler de son épreuve ou si elle veut parler d'autre chose, et si elle veut ne pas parler totalement, se tourner vers ce que les anciens auteurs appelaient le divertissement, c'est-à-dire détourner l'attention sur des choses apparemment anodines pour nous, mais qui, pour elle, vont la désincarcérer de sa souffrance et de sa peine.
Sur franceinter.fr, de nombreux témoignages d'auditeurs qui donnent chacun leur méthode de consolation. Marie qui nous dit « Lire ou relire les consolations de Sénèque peut aider à surmonter les souffrances ». Voilà, que j'imagine doit vous faire plaisir d'entendre ça, Héloïse Lhérété.
Je ne sais pas si ça me fait plaisir, mais en tout cas, je trouve ça assez juste et de manière...
Chercher dans les grands auteurs.
Plus large, voilà, chercher dans les grands auteurs, pas forcément dans ceux qui font des traités de consolation, mais amener de la beauté, ça peut être par des beaux livres, mais ça peut être par des films, ça peut être par un bouquet de fleurs, ça peut être par une promenade dans une belle nature. Amener de l'intelligence quand tout est dévasté, c'est effectivement un levier sur lesquels on peut être présent.
Sur Facebook, Betty nous dit « Pour ma part, je commence toujours par valider, reconnaître la douleur ou la souffrance de l'autre. A contrario, je trouve très dur de dire aux gens, il y a pire ailleurs. » C'est vrai, on en a déjà un petit peu parlé. Il faut jamais minimiser donc cette douleur. Et pour finir, je trouve, nous dit Betty, que les consignes des gestes barrières sont très frustrants quant aux câlins de réconfort qui sont souvent empêchés. Et c'est vrai que le geste, il est important. Vous racontez d'ailleurs, Héloïse Lhérété, que la sagesse philosophique, qui était une déesse, pour consoler un homme injustement condamné à mort, a essuyé ses larmes.
Oui, c'est le début de la consolation de Boès. L'homme est consolé, est condamné à mort. Et effectivement, Philosophia prend le pli de sa robe et essuie les larmes avec ce tissu. Et c'est effectivement un geste à la fois humble et extrêmement puissant.
Christophe André, l'importance du geste, d'embrasser, de prendre dans les bras.
Oui, c'est la base, enfin, si j'ose dire, presque animale de la consolation. C'est-à-dire, on sait qu'il y a dans le monde animal des espèces qui consolent et d'autres qui ne consolent pas. Chez les singes, par exemple, certaines espèces de singes ne s'entre-consolent pas. Les petits macaques, quand il y en a deux qui se bagarrent très violemment, tout le monde s'écarte et regarde ailleurs. Et après la bagarre, vous n'êtes pas consolé, même si vous avez pris une raclée terrible. Et puis d'autres espèces de singes, les chimpanzés, les bonobos, sont consolateurs. Après la bagarre, ils vont consoler notamment le singe qui a perdu le combat, l'épouiller, le caresser, le prendre dans leurs bras. Et nous autres, les humains, nous sommes une espèce consolatrice, c'est-à-dire notre réflexe serait, si nous n'étions pas empêchés par la peur de mal faire, par la peur de nous faire rejeter, parce qu'on arrive au mauvais moment, notre réflexe, ça serait effectivement d'aller vers ces câlins. Moi, je connaissais ça en tant que médecin. Vous savez, les psychiatres ne touchent pas leurs patients en général. Et souvent, j'avais envie de poser ma main sur l'épaule, de prendre le patient, au moins prendre ses mains dans les miennes. Et je l'ai fait parfois quand vraiment j'avais l'impression que c'était ce qu'il y avait de plus fort à faire, que les mots allaient glisser parce que le chagrin à cet instant était trop grand. Et effectivement, aujourd'hui, les masques, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique nous freinent un peu. Mais dans ce cas-là, il faut simplement intensifier les autres canaux de communication. Vraiment, regarder la personne, lui sourire derrière notre masque, être là une fois de plus.
Est-ce que ça se voit, un sourire derrière le masque ?
Et ça se voit. On voit les yeux sourire. Et puis on voit en tout cas l'attention qu'on nous accorde et la présence ou non qu'on accorde à la personne.
C'est l'un des conseils que vous donnez d'ailleurs, ne pas hésiter aussi à se forcer à sourire un peu, parce que ça met en place tout un mécanisme qui fait du bien.
Alors ça, c'est l'autoconsolation. C'est vrai que dans le livre, j'aborde beaucoup aussi cette notion d'autoconsolation qui ressemble à ce qui se passe en psychothérapie. En psychothérapie, le moment le plus important, c'est pas seulement quand vous êtes avec le patient, c'est quand vous le quittez, quand vous vous séparez, que le patient repart et qu'il va commencer son travail de digestion de vos discussions, de vos conseils, de tout ce qui a été fait dans la séance. Et ça, si ce travail n'est pas fait par le patient, évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Et la consolation, c'est un peu pareil. Au début, nous avons besoin que les autres nous apportent leur attention, leur affection, leur présence, mais on ne peut pas rester en permanence dans les bras des autres quand on a eu des soucis, quand on a eu des problèmes. Et c'est simplement un élan qu'ils nous offrent. Et après, nous avons à faire ce petit effort de regarder le ciel, de lire, d'écouter la musique, de nous mettre dans l'action pour prolonger cette consolation reçue des autres et nous tourner vers ce que j'appelle les autoconsolations.
Sur franceinter.fr, justement, Constance de Montréal au Canada nous a laissé une note vocale.
Bonjour, je voulais surtout me concentrer sur... Comment faites-vous pour vous consoler, donc me consoler moi-même? J'ai développé deux outils au cours des dernières années. Le premier, c'est de me consoler comme si je parlais à ma meilleure amie qui se sentait pas bien, qu'est-ce que je lui dirais. Donc de l'écrire, de le nommer à haute voix et ensuite de me le répéter pour moi. Et sinon, la deuxième chose, c'est que j'ai souvent pensé à une petite fille qui est à l'intérieur de moi que je vais consoler. Et donc, on est toutes les deux dans ces épreuves-là.
Héloïse Lhérété, Christophe André, est-ce que ce sont de bonnes méthodes, de bons outils, comme dit Constance?
Oui, moi je suis très, très sensible et très, très impressionnée. Ce que nous dit Constance, c'est qu'il faut créer une altérité. Si elle n'est pas là, on se la recrée, on se l'imagine. Et ça permet en fait de cesser de ressasser. Parce qu'il arrive un moment, quand on est très malheureux, où les mots tournent en boucle dans sa tête, et il faut d'une manière ou d'une autre les faire sortir. Alors les faire sortir, ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être écrire, c'est aussi une façon de recréer son malheur, c'est-à-dire d'en modifier la perception, de lui donner une autre forme. Et puis, il faut savoir... écouter aussi ce malheur-là de manière différente, c'est-à-dire d'une autre manière que sur le mode du ressassement. Et je trouve que voilà, s'il y a personne juste là au moment où on en a besoin, eh bien le fait de s'inventer une altérité, un autre soi, eh bien c'est une merveilleuse manière de réagir.
Mais peut-être que ça signifie aussi que la première des personnes sur qui il faut compter pour la consolation, c'est d'abord soi-même, non, Christophe André?
Alors oui et non, justement, parce que je trouve que le message de Constance rappelle que vraiment, on a besoin de cette altérité, que le premier mouvement, en tout cas le mouvement le plus puissant, le plus nécessaire à un moment donné, ça va être l'autre. Là. Et ce que décrit Constance, c'est très intéressant parce qu'elle montre comment, eh bien, si l'autre n'est pas disponible à l'instant où elle en a besoin, elle va le créer un petit peu dans sa tête par deux démarches qui sont aussi des techniques de psychothérapie très intéressantes. C'est d'une part le discours intérieur, cette petite voix intérieure que nous nous tenons pour nous encourager, pour nous réconforter et qui doit être une voix amicale, hein, c'est très classique en psychothérapie de demander aux patients de se parler comme ils parleraient à leur meilleur ami. Parce qu'en général, quand on se parle à soi-même, dans les échecs, dans les adversités, on se parle durement, on se traite durement. Et l'autre technique... C'est ce qu'on appelle l'autoparentage, c'est-à-dire elle se console comme si elle était une petite fille, elle se fait des câlins psychologiques, et ça, c'est vraiment, Constance a, j'allais dire, presque redécouvert deux techniques psychothérapiques assez classiques.
Ce que vous racontez aussi, Héloïse Lhérété, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les métaphores. Alors, le voyage, quand on parle de la mort, en cas de deuil, le départ. Pourquoi ces métaphores ont-elles
de l'importance? Oui, c'est la figure reine de la consolation, la métaphore, parce que précisément, elle permet ce que...
Moi, je trouve qu'elle ne dit pas vraiment les choses, du coup. Donc,
elle permet ce que je disais tout à l'heure, de modifier les coordonnées de la perception, c'est-à-dire de voir son malheur autrement, sous la forme de l'image. C'est pas édulcorer le malheur, c'est juste en le déplacer, vous voyez, ne pas être toujours sur les mêmes mots bruts qui finissent par tourner en rond. La métaphore, elle permet le déplacement, elle permet à l'imaginaire de se remettre en branle, elle permet de recréer son malheur, c'est-à-dire à la fois de lui donner une forme, mais aussi d'y faire souffler quelque chose de neuf. Et c'est la raison pour laquelle elle est reine.
Pour moi, elle est un peu l'antichambre du mensonge. Et justement, le mensonge, vous en parlez, Christophe André, dans votre livre, en disant qu'il ne faut pas hésiter, si on sent qu'à ce moment-là, ça fait plaisir, à tordre un petit peu la réalité, la vérité.
Ouais, il y a deux choses. D'abord, effectivement, parfois, il vaut mieux mentir, parce que le mensonge est une illusion qui va réconforter transitoirement. Alors, l'objectif de la consolation, c'est quand même de réconforter quelqu'un qui va mourir et qui ne veut pas entendre qu'il va mourir. On ne va pas faire irruption dans cette construction, dans cette protection qu'il s'est faite pour ne pas songer à sa mort. Donc ça, il faut toujours respecter les mécanismes de défense qu'ont choisi les patients. Et puis, il y a des choses qui sont pas vraiment des mensonges, mais qui effectivement détourne l'attention. Il y a une très belle scène que raconte Anne Dauphine Julien dans un de ses livres. Anne Dauphine Julien, c'est une maman qui a perdu deux petites enfants. Filles, voilà, qui étaient handicapées, qui sont mortes très jeunes. Et elle raconte à un moment donné qu'elle est au lit, au chevet d'une de ses petites filles à l'hôpital, qui va très très mal et elle est très inquiète évidemment. Et il y a une infirmière à côté d'elle. Elle demande à l'infirmière comment vous la trouvez. Et en attendant une réponse sur le plan médical. Et l'infirmière dit juste « je la trouve belle ». Et ce truc, cette scène est bouleversante parce que, au fond, c'est une intelligence extraordinaire de la consolation. L'infirmière ne veut pas se placer sur le plan médical, elle sait que sur ce plan-là, il n'y a pas de consolation, cette petite fille est en train de mourir, mais elle remet la maman sur la piste d'un regard plus vaste sur sa petite fille, qui n'est pas seulement la voir comme une petite fille malade et mourante, mais comme une jolie petite fille qu'elle a aimée de toutes ses forces. Et la consolation, c'est aussi ça parfois, c'est ne pas vouloir rester sur la seule souffrance, le seul terrain de ce qui ne va pas, mais ouvrir le regard de l'autre.
Donc c'est peut-être l'une des rares fois où on est autorisé à mentir alors, non ?
Je le crois, sincèrement.
Sur franceinter.fr, ces messages qui continuent de nous arriver très très nombreux ce matin. Guico qui nous dit « Laisser la personne en détresse s'exprimer sans se sentir dans l'obligation d'atténuer sa tristesse, encore moins la supprimer, juste être là dans l'écoute bienveillante, éviter les conseils non sollicités, c'est ce que je trouve de plus efficace. Care, not cure. » Donc on pourrait traduire par « prendre soin et ne pas soigner », nous dit Guico. Angela qui nous dit « Parfois les enfants savent mieux consoler d'un chagrin que les adultes. » Et puis Isabelle, pour consoler, j'aime parfois aussi user d'humour comme alléger la tristesse ou la colère. 10h43 sur France Inter, de l'humour justement. C'est l'heure de retrouver la chronique, chose presque vue, d'Éric Libio.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Éric Libio, un homme qui sait où mettre les points.
Alors vous n'y allez pas par quatre chemins, cher Christophe André, puisque dès le début de votre livre, vous écrivez « Consoler, c'est soulager une peine ». Voilà, c'est clair, vous mettez les points sur les i, ce qui est finalement normal, puisque dans le mot « peine », il y a bien un nid dans lequel il faut savoir se réfugier, mais d'où il faut aussi pouvoir sortir pour s'envoler ailleurs. Vous n'y allez pas par quatre chemins, eh bien, moi si, je vais prendre quelques chemins détournés, donc il y a un nid dans cette peine qu'il faut soulager. Mais si vous ôtez l'i, il reste le mot peine, P-E, accent circonflexe, N-E, un des éléments d'une serrure qui nécessite une clé pour ouvrir une porte. Et ce n'est pas fini avec deux i. La peine est également une solive importante, et comme chacun sait, une solive est une pièce de charpente horizontale qui permet de construire un plancher solide sur lequel on peut se tenir droit après avoir ouvert une porte. La peine est aussi la plume d'un oiseau.
Oui, avec deux N, celle-là, du coup.
Voilà, avec deux N. Merci de rectifier l'orthographe, Thomas.
Je vous en prie.
La plume d'un oiseau, oui, celui qui s'envole du nid ou d'un palmipède, comme l'oie. Et c'est un signe, car il fut un temps où on écrivait avec un doigt sur les murs des cavernes, et puis un autre où on écrivait avec une plume d'oie. On passe du doigt à la plume d'oie, et certains disent que c'était même le pied d'écrire ainsi. Et puis de la plume d'oie à la plume sergent-major, pour être mieux armé sans doute. Et puis le crayon, le stylo, le clavier. Clavier qui d'ailleurs, à l'origine, est une chaîne servant à réunir plusieurs clés. On n'en sort décidément pas de tous ces chemins, surtout si on se rend compte qu'un clavier peut s'adapter à une console de jeu, qu'on écrira comme on veut, avec un U ou sans U. C'est grâce au clavier que les écrivains inventent des histoires. C'est ce que fait Tonino Benacquista dans son nouveau livre « Porca Miseria » paru chez Gallimard là, il y a quelques jours. Ce n'est pas un roman, mais un récit. Le récit autobiographique d'un gamin né à Paris, de parents immigrés italiens qui ont bien du mal à trouver leur place. La mère est constamment au bord de la dépression, le père boit beaucoup, tout le temps. Et le petit Tonino, dernier de la famille, deviendra grand en imaginant des histoires pour se consoler de la dureté des temps, puis écrira d'autres histoires pour consoler ceux qui les lisent. C'est un livre pudique, simple, émouvant, qui dit aussi que les voyages dans l'imaginaire, dans la fiction, entre mots et merveilles, permettent de se construire ou de se reconstruire. Alors vous connaissez sans doute Tonino Benacquista, hein, c'est l'auteur de Saga, de La Baldone des Sleeping.
L'Orsure de l'Aube.
Voilà, exactement. Et aussi de La Commedia des Ratés, un beau roman noir dans lequel il donne des recettes de cuisine de pâtes, notamment les penne à l'arrabbiata, clin d'œil au gourmand Ali que j'embrasse. Oui, mesdames, messieurs, les penne, on y revient. Alors les penne, hein, prononcé penne, est une variété de pâtes appelée ainsi à cause de sa forme biseautée qui rappelle la plume d'oie. On y revient encore.
J'ai l'impression que la boucle commence à se boucler, Eric.
Et me voilà presque arrivé au bout des quatre chemins et je ne cesse de m'étonner de cette langue française qui permet de discuter avec les mots. Et vous savez, cher Christophe, grâce à votre métier, l'importance des mots et la douleur des mots, je ne sais pas si c'est un remède, mais c'est en tout cas le mien. Je me console très souvent en voyageant dans la langue française et je vous promets que ça vaut la peine.
Avec un i, celle-là.
Avec un i.
Merci Eric Libio. Votre chronique est à retrouver sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Et vous êtes bien sur France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Je peux rougir, je peux sourire, je peux venir. Dans mes souvenirs, tu me fais vivre. Un peu plus loin, un peu plus toi. Un peu plus moi, un petit rien, un peu plus mien, toi et moi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça c'est pas mon affaire. Si je brûle en enfer, au moins j'aurais écouté l'air. C'est plus facile à dire qu'à croire, mais ça c'est pas mon histoire. Quand tout est dans le noir, ta main retient mon espoir. Si je m'oublie, prends garde à toi. Si je t'ennuie, prends garde à moi. Si je me dis, regarde-moi. Prends garde à toi, prends garde à moi. Tous les jours, un vrai retour.
Si je m'oublie, prends garde à toi.
nouveau single de la chanteuse franco-américaine Anna Magidson, En deux mots, c'est le titre.
Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour.
Grand bien vous fasse.
Allô.
Allô. Je ne vous entends pas.
Thomas Chauvineau.
Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire?
Allô. Appuyez sur le bouton. Allô. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
Sur France Inter.
Le France Inter fonctionne mieux que la cabine d'Anémone dans Le Père Noël est une ordure. Deux invités aujourd'hui pour parler de la consolation. Christophe André, qui est psychiatre, et Héloïse Lerété, qui est journaliste. Et puis Éric Libiot et Marie-Laure Sonshine sont là également avec vous. Et ces nombreux messages qui continuent de nous arriver, je peux en lire qu'une partie malheureusement. Mais Estelle nous dit, pour ma part, j'ai dû apprendre à mes proches comment me consoler, être présent pour moi dans les moments durs. Difficile à faire quand on est soi-même dans une situation douloureuse. On aimerait qu'on vous comprenne sans avoir rien à dire. Dans un SMS, ma mère me disait ne pas savoir quoi faire, alors j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pu lui dire que j'avais besoin d'elle, pour moi, pour mon fils, et surtout de ses petits messages de soutien, tout simples, tout bêtes, mais tellement importants pour ne pas se sentir seul. Et puis Florence nous dit, la nature, on y revient, hein, toujours la nature, on en a beaucoup parlé, la nature me console, y marcher, reprendre mon souffle, trouver du souffle, elle m'apaise et me réaligne, même un simple parc parisien peut m'être salutaire. Et puis Fred nous appelle Damien. Bonjour Fred.
Bonjour.
Vous vouliez témoigner?
Oui, enfin, je voulais dire que moi, ce qui m'apaise et me tranquillise, c'est surtout les gestes, et particulièrement ce que les Américains appellent le hug, mais que nous on appelle le câlin, mais qui est un petit peu plus ambigu en français, enfin qui a été polysémique en français. Mais
L'autre câlin peut faire aussi partie de la consolation, d'ailleurs. Hein.
Oui, aussi. Oui.
Bon, celui auquel vous pensez, mais que vous ne citez pas.
Peut-être pas avec tout le monde, c'est ça le problème. Hein. C'est pas où le pauvre. Ouais, en effet, mais ce premier rapport physique de prise dans les bras et de sentir l'humanité de l'autre, ou de passer sa propre humanité à l'autre pour le rassurer, me semble, moi, très un geste très fort, quoi. Voilà, très utile en tout cas.
Et que vous faites régulièrement? Enfin, régulièrement, le moins souvent possible, c'est toujours ce qu'on a envie de dire dans ces cas-là, mais que vous pratiquez, je veux dire.
Que je pratique quand les gens sont prêts à l'accepter, hein. C'est toujours de la même façon, c'est-à-dire que ça se dose, ça se regarde, quand moi je console, je sais que je suis disponible à ça, voilà, rester disponible, mais c'est un peu pareil pour recevoir les paroles de l'autre et les genres de choses, quoi.
La disponibilité. Merci Fred de votre témoignage. Bonne journée à vous.
Je vous en prie. Merci.
Marie-Laure Sonshine, vous aviez une question à poser.
Oui, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Fred, Christophe André. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, l'attitude de chacun en tant que consolé ou consolant dépend du profil d'attachement étant enfant. Finalement, de la confiance placée ou pas dans ses propres figures d'attachement que sont bien évidemment les parents ou les proches. Qu'est-ce que c'est le profil d'attachement ?
Alors, la psychologie d'attachement, c'est une branche de la psychologie qui essaie d'explorer, d'étudier comment notre comportement relationnel, une fois devenu adulte, s'ancre dans ce que nous avons vécu dans la relation aux parents. Alors, rien de très classique, vous me direz, mais je vous donne quelques petits détails. Par exemple, si j'ai des parents qui sont très fiables lorsque je suis enfant, c'est-à-dire qui sont attentifs, disponibles, qui me conforte quand j'ai eu du chagrin. Au fond, si j'ai été consolé correctement, sans excès ni sans carence quand je suis enfant, finalement, je vais développer cette vision du monde, cette vision des autres, qui est que les autres sont fiables, les autres sont un secours pour moi lorsque je suis en difficulté, et donc je n'ai pas peur de me détacher d'eux pour explorer le monde, puisque je sais que mes relations à eux sont fiables et solides, que je pourrai toujours revenir vers eux. Si par contre je suis un petit enfant qui a des parents fragiles, perturbés, qui ne savent pas me sécuriser, je suis pas sûr quand j'aurai des ennuis qu'ils pourront m'aider, eh bien tout ça va me rendre craintif par rapport à l'exploration du monde, puisque je sais que j'ai pas des bases arrières solides, que ce lien aux autres n'est pas solide, donc je vais avoir beaucoup de mal avec la notion d'attachement à d'autres personnes, je sais pas s'ils seront fiables ou non, et de détachement. Et donc ce que je veux dire, c'est que finalement la manière dont j'ai été consolé enfant peut préfigurer un petit peu la facilité avec avec laquelle je vais offrir les consolations ou je vais accepter de les recevoir. Si je me suis construit dans la solitude, dans la dureté, dans la méfiance aux autres, si j'ai eu des problèmes d'attachement sécure, confiant, sécurisé, eh bien, la consolation, ça va être un truc que je n'aimerais pas recevoir et que je serai assez infirme au moment où il faudra la donner. Donc ça, c'est toute une branche, effectivement, qui essaie de comprendre pourquoi certains d'entre nous sont de bons consolateurs et pourquoi certains sont moins bons.
Sur franceinter.fr, Brie Walt nous écrit notamment « Le soir où nous avons perdu notre petit garçon de 3 ans, nos plus proches amis nous ont invités à partager leur repas. Nous avons parlé de cela, ça nous a fait beaucoup de bien. Patrick nous dit « Bonjour, ce qui compte aussi, c'est la sincérité de la compassion. » Et puis un autre Patrick sur Facebook qui nous dit « Pour moi, la consolation, c'est la reconnaissance de la douleur. Alors que j'étais en situation de rupture, l'ami chez lequel j'allais très souvent pour parler m'écoutait chaleureusement, me faisait rire, sourire, oublier. Et puis un jour, il m'accueille sur le palier sans me faire rentrer chez lui et il me dit « Je vois que tu tournes en rond, je te donne le nom d'un bon thérapeute qui va t'aider. » Et là, j'ai compris que les clés étaient entre mes mains. Parler aux autres, c'est la première étape, certes, puis continuer le chemin par nos propres forces, par nos propres désirs. Christophe André.
Formidable. Hein, non, moi, je trouve que tous ces témoignages sont...
Ils sont puissants, hein, bien sûr.
Ouais, ils disent l'essentiel. Non, non, c'est vrai que la consolation ne remplace pas à certains moments quelque chose de plus profond en termes de réflexion et de remise en question personnelle. Oui, très très juste.
Et Louise Lérité ?
Oui, mais néanmoins, nous vivons dans une certaine idéologie individualiste aussi qui tend à faire croire aux gens que les individus détiennent seuls les moyens de leur résilience. Et cette notion de consolation, moi je la trouve très belle et très intéressante aujourd'hui, justement parce qu'elle nous rappelle que le bonheur, comme le malheur, ont une dimension sociale.
Ouais. Et que ça se partage.
Que ça se partage. Et nous sommes tous potentiellement des figures d'intermédiation. Donc il y a une dimension à la fois sociale, éthique, et politique même dans cette notion. Voilà, donc je trouve qu'elle mérite puissamment d'être réhabilitée. Alors évidemment, on n'est pas toujours disponible comme on l'aimerait. On a tous eu des manquements. Moi, j'en ai eu même récemment. Et voilà, mais on peut toujours aussi revenir, on peut toujours revenir vers les autres, on peut toujours leur dire tout simplement qu'on pense à eux. Qu'on les considère. Et c'est dans ces petits mots, dans ces petits gestes, dans le repas partagé, c'est aussi très important, dans le soutien pour faire des courses, pour faire une lessive, pour une promenade
en campagne.
C'est
vrai que ces gestes quotidiens aussi qui sont...
Aussi, on forme une communauté autour des gens les plus vulnérables, dont nous ferons sans doute partie un jour aussi.
Je voudrais citer, Christophe André, pour finir l'émission, cette phrase que vous avez écrite. « La consolation n'est pas une réparation magique. Elle est comme une lumière qui s'invite dans l'obscurité et qui nous permet d'apercevoir les formes encore floues d'un monde à venir qui serait vivable, simplement vivable. » Merci infiniment à tous les deux d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien vous fasse. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr et sur la plupart des plateformes de podcast. On se retrouve demain à 10h pour une émission consacrée à l'hypnose et aux enfants. L'hypnose peut-elle aider les enfants ? On attend déjà vos questions et vos témoignages sur l'appli de France Inter.